Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 30, Disparu. Le dimanche matin, dès l'aube, Huck remonta la colline et s'en vint frapper doucement à la porte de la maison du vieux Gallois. Les trois hommes dormaient, mais à la suite d'événements comme il s'en était passé cette nuit-là, ils ne dormaient que d'un œil. Une fenêtre s'ouvrit. « Qui est là ?»«
Ce n'est que moi. » Huck Finn.
Voilà un nom qui, maintenant, fera toujours ouvrir notre porte, de jour comme de nuit. Sois le bienvenu, mon ami. Paroles auxquelles le jeune vagabond n'était pas habitué et qui lui résonnaient agréablement aux oreilles. Il ne se rappelait pas qu'on lui en eût jamais dit autant. La porte s'ouvrit, il entra, on le fit asseoir. Le vieux Gallois et ses fils s'habillaient. « Mon garçon, j'espère que tu as de l'appétit. Un déjeuner bien chaud, tu peux compter là-dessus, sera prêt au lever du soleil et tu ne seras pas de trop. Nous comptions bien que tu viendrais coucher ici cette nuit. »«
J'ai eu très peur, » dit Huck, « et je me suis sauvé. Au premier coup de feu, j'ai décampé en vitesse et j'ai bien fait au moins 5 kilomètres au pas de course. Mais il me tardait d'avoir des nouvelles. Et si je suis revenue avant le lever du soleil, c'est parce que cela ne me disait rien de rencontrer ces deux diables, même morts. Mon pauvre petit gars, tu m'as l'air d'avoir passé une bien mauvaise nuit. Mais si tu veux faire un somme après ton déjeuner, il y a un lit ici, pour toi. Non, ils ne sont pas morts, et c'est bien dommage. D'après ta description, nous savions exactement où les trouver. Nous nous sommes avancés à pas de loup jusqu'à 3 ou 4 mètres d'eux. Dans le sentier au sumac, il faisait noir comme dans un four. Ne voilà-t-il pas que, juste à ce moment-là, j'ai eu une envie terrible d'éternuer. C'est bien ma veine. J'ai essayé de me retenir, mais rien à faire. Il a fallu que ça parte. J'étais en tête, pistolet en main, et quand j'ai éternué, ces bougres-là sont sortis du sentier. On les entendait frôler les sumacs. J'ai crié « Tirez les gars !» Et en même temps que mes fils, j'ai fait feu dans la direction du bruit. Mais les coquins n'ont pas perdu de temps. Nous les avons poursuivis dans le bois. Nous n'avons pas dû les atteindre. Ils ont tiré sur nous, un coup chacun. Nous avons entendu siffler les balles, mais ils nous ont manqué. Dès que nous n'avons plus rien entendu, nous avons abandonné la poursuite et avons été prévenir la police. Un détachement est parti surveiller les abords du fleuve et, dès qu'il fera jour, le shérif, à la tête d'un autre détachement, organisera une battue dans les bois. Mes fils se joindront aux policiers. Si seulement nous avions un signalement de ces deux brigands, cela ferait joliment bien l'affaire. « Dis-moi, dans l'obscurité, tu n'as probablement pas pu les voir. »«
Mais si, je les ai vus en ville, et je les ai suivis.
Oh, »« Ça tombe à pic !»«
Dis un peu de quoi ils ont l'air. » »«
L'un est ce vieux sourd-muet espagnol qui est venu au village une fois ou deux. »« L'autre est tout dégonillé. »«
Ça suffit, mon petit. »« Nous voyons qui c'est. »« Je les ai aperçus une fois dans les bois, derrière la propriété de Madame Douglas. » Et ils se sont sauvés. En route, les gars, dites ça au shérif. Vous déjeunerez quand vous reviendrez.
Les fils du Gallois partirent aussitôt. Au moment où ils sortaient, Huck se leva d'un bond et s'écria.
Je vous en prie, ne dites à personne que c'est moi qui vous ai mis sur leur piste. Je vous en prie.
Entendu, puisque tu le demandes. Mais pourquoi ne pas vouloir qu'on reconnaisse le mérite de ce que tu as fait ?
Je vous en prie, n'en dites rien.
Après le départ des jeunes gens, le vieux Gallois dit « Ils ne diront rien, moi non plus. Mais pourquoi veux-tu qu'on ne le sache pas ?» Huck, réticent, se perdit dans des explications embrouillées, disant seulement qu'il en savait déjà trop long sur l'un de ces deux hommes. Et pour tout l'or du monde, il ne voulait pas que cet homme apprît que lui, Huck, savait quoi que ce soit sur lui. Car il lui ferait son affaire, c'était sûr. Le vieux Gallois promit à nouveau le secret
et ajouta. « Comment en es-tu venu à les suivre? Tu te doutais de quelque chose ?» Huck prit le temps de réfléchir pour ne pas en dire plus long qu'il ne voulait. « Vous savez, je mène une vie plutôt dure. Tout le monde le dit, du moins. Et je crois que c'est vrai. Et quelquefois, à force d'y penser, de chercher le moyen de sortir de ma misère, ça m'empêche de dormir. C'était le cas la nuit dernière. Impossible de fermer l'œil. Il était quelque chose comme minuit. Je me promenais en échafaudant des plans, et quand je suis passée le long de la briqueterie à côté de la taverne de la Tempérance, je me suis adossée au mur pour réfléchir. C'est à ce moment-là que les deux individus sont passés près de moi. L'un avait quelque chose sous le bras. J'ai pensé qu'il venait de faire un coup. L'un d'eux fumait. L'autre lui a demandé du feu. Ils se sont arrêtés juste devant moi. La lueur des cigares leur a éclairé le visage. Et alors j'ai pu voir que le grand, c'était le sourd-muet espagnol. Je l'ai reconnu à ses favoris blancs et à son bandeau sur l'œil. L'autre était tout déguenillé. C'est à la lueur des cigares que tu as vu qu'il était déguenillé ? Huck fut un instant démonté par cette remarque. Puis il reprit. « Je ne sais plus, mais il me semble bien que oui. » Alors, ils ont continué leur chemin. Et puis ? Et puis, je les ai suivis, oui, c'est ça. J'ai voulu voir ce qu'ils allaient faire. Ils avaient l'air de vouloir se cacher. Je les ai suivis jusqu'à la barrière de chez Madame Douglas. Dans le noir, j'ai entendu le petit plaider pour elle. Et l'Espagnol jurait ses grands dieux qu'il la défigurerait. Comme je vous l'ai dit, à vous et à vos deux. Quoi ? C'est le sourd-muet qui a dit tout ça ? Huck s'était coupé encore une fois. Plus il manœuvrait de façon à empêcher le vieux de savoir qui était l'Espagnol, plus il s'enferrait en dépit de tous ses efforts. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour en sortir. Le Gallois lui faisait subir un interrogatoire serré. Et Huck faisait gaffe sur gaffe. « Mon petit gars, dit le vieux, n'aie pas peur de moi. Je ne toucherai pas un cheveu de ta tête pour tout l'or du monde. Ce que je veux, c'est te protéger. Cet Espagnol n'est ni sourd ni muet. Tu viens de le dire, malgré toi. Inutile d'essayer de te rattraper. Tu sais sur son compte quelque chose que tu ne veux pas dire. Aie confiance en moi. Dis-moi ce que c'est. Je ne te vendrai pas. » Huck regarda le vieillard bien en face. Il ne vit en lui que bonté et loyauté. Il se pencha vers lui et lui chuchota dans l'oreille. « Ce n'est pas un Espagnol, c'est Joe l'Indien. » Le Gallois faillit sauter en l'air. « Je comprends maintenant. Quand tu m'as parlé de nez fendu et d'oreilles coupées, j'ai pensé que c'était de l'imagination de ta part, parce que les Blancs ne se vengent pas de cette façon-là. Mais un Indien, c'est autre chose. » Pendant le déjeuner, la conversation continua. Le vieillard raconta qu'en dernier lieu, avant de se coucher, ses fils et lui avaient allumé une lanterne et étaient allés examiner la barrière et ses alentours pour voir s'il n'y avait pas de taches de sang. Ils n'en avaient pas trouvé, mais avaient mis la main sur un grand sac contenant... Contenant quoi ? Les mots étaient sortis de la bouche de Huck plus vite qu'il ne le voulait. Les yeux écarquillés, le souffle coupé, il attendait la réponse. Le Gallois, étonné, le regarda fixement pendant 3 secondes. 5 secondes. 10 secondes. Et répondit. Des outils de cambrioleur. Mais qu'est-ce que tu as ? Huck s'affala dans son fauteuil, haletant, mais inexprimablement soulagé. Le Gallois le regarda intensément, avec curiosité, puis dit. Oui, des outils de cambrioleur. On dirait que cela te soulage de l'apprendre. Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu voulais que ce soit ? Huck ne savait plus où se mettre. Sous le regard inquisiteur fixé sur lui, il aurait donné n'importe quoi pour trouver une réponse plausible. Il ne trouvait rien. Il laissa échapper la première idée qui lui passa par la tête. Il n'avait pas le temps de peser ses mots. des livres pour l'école du dimanche, murmura-t-il. Le pauvre Huck n'avait certes pas l'intention d'être drôle, mais le vieillard éclata d'un rire joyeux qui le secoua de la tête aux pieds, et il déclara qu'un tel rire valait mieux que toutes les ordonnances du médecin. Il ajouta « Mon pauvre petit gars, te voilà tout pâle. Tu as l'air fatigué. Tu ne dois pas être dans ton assiette. Mais ce ne sera rien. Un bon repos et ça ira mieux après. » Huck était vexé de s'être trahi si bêtement et d'avoir fait preuve d'une agitation qui pouvait paraître suspecte. En fait, dès qu'il avait entendu la conversation près de la barrière, il avait eu la conviction que le paquet emporté de la taverne ne pouvait pas contenir le trésor. Toutefois, ce n'était qu'une supposition, il n'en était pas sûr. Et la nouvelle de la découverte du sac lui avait fait perdre son sang-froid. Dans l'ensemble, l'incident avait clarifié la situation. Huck savait maintenant que ce sac n'était pas le bon. Il était tranquillisé, tout était en bonne voie. Le trésor devait toujours être au numéro 2, les bandits ne tarderaient pas à être pris et seraient mis sous les verrous le jour même. Tom et lui pourraient s'emparer du magot sans crainte d'être dérangés. Le déjeuner était à peine terminé que l'on frappa à la porte. Huck se dissimula dans un coin. Il n'avait envie d'être mêlé ni de près ni de loin aux événements de la veille. Le Gallois fit entrer plusieurs personnes, dont Madame Douglas. Dehors, des groupes de curieux montaient la côte. Les langues avaient marché. Le Gallois dut raconter aux visiteurs l'histoire de la nuit. Madame Douglas exprima sa reconnaissance en termes chaleureux. « Ne parlons pas de cela, madame. Il y a quelqu'un à qui vous devez plus de reconnaissance qu'à mes fils et à moi. Mais il ne me permet pas de dire son nom. Sans lui, nous ne serions pas arrivés à temps. » Cette nouvelle intrigua tellement les visiteurs qu'elle faillit prendre la première place dans la conversation. Néanmoins, le Gallois refusa de satisfaire les curiosités et parla même d'être cause que toute la ville fût au courant. Il garda donc son secret. Le sujet épuisé, Madame Douglas intervint. Je m'étais endormie en lisant dans mon lit, et je dormais profondément malgré tout ce bruit. Pourquoi n'êtes-vous pas entrée? Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillée? Nous avons trouvé que ce n'était pas la peine. Il était peu probable que ces bandits songent à revenir. Ils avaient perdu leurs outils. À quoi bon vous réveiller et vous alarmer? Mes trois nègres ont monté la garde autour de votre maison tout le reste de la nuit. Tenez, ils viennent justement de rentrer. De nouveaux groupes de visiteurs arrivèrent. Il fallut chaque fois leur répéter l'histoire. Pendant les vacances, il n'y avait pas d'école du dimanche, mais tout le monde alla à l'église de bonne heure. Les fidèles, se rendant à l'église, ne parlaient que de l'événement sensationnel et disaient qu'aucune trace des deux bandits n'avait encore été découverte. Quand le sermon fut terminé, Madame Thatcher rejoignit Madame Harper à la sortie et lui demanda « Est-ce que ma petite béquille va dormir toute la journée? J'ai bien pensé qu'elle devait être morte de fatigue. »« Votre béquille ?»« Oui, » dit Madame Thatcher stupéfaite. « N'a-t-elle pas couché chez vous hier soir ?»« Mais non. » Madame Thatcher pâlit et s'affaissa sur un banc juste au moment où Tante Polly, en grande conversation avec une amie, venait à passer. « Bonjour, Madame Thatcher, » dit Tante Polly. « Bonjour, Madame Harper. L'un de mes neveux manque à l'appel. Sans doute Tom a-t-il couché chez l'une d'entre vous cette nuit ?» Et il n'a pas osé venir à l'église. Nous allons avoir un compte à régler ensemble, lui et moi. » Madame Thatcher hocha faiblement la tête. Sa pâleur augmenta. « Il n'a pas couché chez moi, » dit Madame Harper, qui à son tour commençait à être inquiète. L'anxiété se peignit sur les traits de Tante Polly. « Tu Harper, as-tu vu Tom ce matin ?»« Non, madame. » « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?»«
Joe essaya de se rappeler, mais il ne pouvait rien dire avec certitude. Les fidèles étaient tous sortis de l'église. Les chuchotements passèrent de bouche en bouche, et il résulta pour tous une gêne de mauvais augure. On interrogea anxieusement les enfants, ainsi que les jeunes surveillants qui avaient accompagné les disparus. Personne ne s'était inquiété à savoir si Tom et Becky étaient à bord du bac au voyage de retour. Il faisait noir, personne n'avait songé à vérifier si quelqu'un manquait. Un jeune homme exprima alors la crainte que les enfants ne fussent peut-être dans la grotte. Madame Thatcher s'évanouit à cette idée. Tante Polly se mit à pleurer et à se tordre les mains. L'alarme se répandit de bouche en bouche, de groupe en groupe, de rue en rue. Au bout de 5 minutes, le tocsin sonnait et le village entier fut sur pied. L'événement de Cardiff Hill perdit toute importance. Les cambrioleurs furent oubliés. On sella les chevaux, on sauta dans les canots, le bac appareilla. Et moins d'une demi-heure après la constatation de l'absence des enfants, un ensemble de 200 personnes se dirigeait vers la grotte. Pendant tout l'après-midi, le village parut désert. Nombreuses étaient les femmes qui se rendaient auprès de Madame Thatcher et de Tante Polly pour les réconforter. Elles pleuraient avec elles. Les larmes valent souvent mieux que des paroles. Toute la nuit, le village attendit des nouvelles. Quand enfin le jour parut, le seul signe de vie que l'on eût reçu était envoyer d'autres chandelles et des vivres. Madame Thatcher était presque folle d'inquiétude, et Tante Polly aussi. Monsieur Thatcher, qui était allé à la grotte, leur avait bien adressé quelques messages d'espoir et d'encouragement, mais qui ne contenaient rien de positivement rassurant. Le vieux Gallois rentra chez lui à l'aube, les vêtements couverts de taches, de chandelles et de terre glaise, harassé de fatigue. Huck était encore dans le lit qu'on lui avait préparé. Il avait la fièvre. Il délirait. Tous les médecins étant dans la grotte, Madame Douglas voulut s'occuper du petit malade. Elle dit qu'elle ferait de son mieux parce que, qu'il soit bon ou médiocre ou mauvais, il était une créature de Dieu et rien de ce qui venait de Dieu ne devait être négligé. Le Gallois dit qu'il y avait du bon dans ce garçon. Et la veuve répondit « Vous pouvez en être sûr, c'est la marque de Dieu. Il y en a dans chacune de ces créatures. » Au début de l'après-midi, des groupes de chercheurs commencèrent à revenir au village. Mais les plus robustes continuèrent les recherches. Tout ce que l'on put apprendre, c'est que les investigations s'étaient étendues jusqu'aux profondeurs les plus inexplorées de la grotte. Pas de crevasses. Pas de coin qui n'ait été visité. Partout où quelqu'un se risquait dans le labyrinthe des galeries, des lumières en mouvement permettaient de le suivre, des échanges d'appels et de coups de pistolet se répercutaient le long des sombres corridors. À un endroit, loin de la partie fréquentée par les touristes, on avait trouvé l'inscription « Becky et Tom », tracée à la suie de chandelles. Tout près de là, on avait ramassé un bout de ruban taché de graisse. Madame Thatcher reconnut le ruban et elle éclata en sanglots. C'était la dernière relique qu'elle aurait jamais de sa fille. Rien ne pouvait lui être plus précieux parce que, quand elle l'avait perdue, elle était encore vivante. Quelqu'un raconta que, de temps à autre, dans la grotte, on voyait un point lumineux apparaître au loin. L'espoir renaissait. Un groupe d'hommes s'engageait dans la galerie. Ce n'était que pour éprouver un nouveau désappointement. Le point lumineux n'était constitué que par les chandelles d'un autre groupe de chercheurs. 3 jours et 3 nuits s'écoulèrent. Le village sombra dans un profond abattement. Personne n'avait plus de cœur à rien. La découverte, faite totalement par hasard, que le propriétaire de la taverne de la Tempérance avait un dépôt clandestin d'alcool, n'attira que faiblement l'attention, quelque importante que fût cette nouvelle. Dans un intervalle de lucidité, Huck amena la conversation sur les tavernes en général, et finalement, craignant confusément le pire, il demanda à Madame Douglas si quelque chose avait été découvert à la taverne de la Tempérance depuis qu'il était malade. « Oui, » dit-elle. Les yeux hagards, Huck se dressa sur son séant. « Quoi ?
Quoi donc ?
De l'alcool. On a fermé la taverne. Reste tranquille, mon petit.
Quelle peur tu m'as faite !
Dites-moi encore une chose. Rien qu'une, je vous en prie. Est-ce Tom Sawyer qui l'a découvert ? La veuve éclata en sanglots.
Chut, chut, mon petit, je t'ai déjà dit que tu ne devais pas parler. Tu es très, très malade.
Ainsi, on avait découvert que l'alcool.
Quel bruit cela aurait fait si on avait découvert l'or.
Alors le trésor avait disparu. Il fallait en faire son deuil.
Mais pourquoi Madame Douglas pleurait-elle ?
C'était curieux qu'elle pleure comme cela. Huck ressassait continuellement ses mêmes pensées. Sous l'effet de la fatigue qu'elle lui causait, il ne tarda pas à s'endormir.
« Là, il dort, le pauvre petit, » se dit Madame Douglas.
Il demande si Tom Sawyer a trouvé l'alcool.
C'est Tom Sawyer qu'il faudrait retrouver.
Hélas, il n'y a plus beaucoup de gens maintenant qui gardent assez d'espoir ou assez de force pour continuer les recherches.